Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Ministre du Tourisme de Brunei Darussalam affirme que l'Indonésie a un grand potentiel touristique. Commission 7 soutient les mesures gouvernementales concernant le plan d'investissement des ports. KP2MI accompagne 179 travailleurs migrants indonésiens d'Arabie Saoudite lors de leur retour dans leur foyer. KKP assure une productivité accrue de la pêche dans le sud de Sumatra. Indonésie lance un commerce international de carbone. Programme de stage à Sisis s'étend au-delà de Jakarta. Et visite IKN, Finlande, voit des exemples de technologies de poteaux intelligents et de technologies de villes intelligentes. Bonjour, je te voici les nouvelles en complet. Le ministre des Ressources primaires et du Tourisme du Brunei Darussalam, Dato Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, a déclaré que les opportunités de l'Indonésie d'attirer de nombreux touristes sont très grandes. C'est ce qu'a déclaré Haji Abdul Manaf lors de l'événement session de réseautage entre les agences du Brunei et de l'Indonésie à Jakarta mardi 14 janvier. Haji Abdul Manaf a expliqué que l'Indonésie a un grand potentiel touristique que le royaume de Brunei n'a pas. Par exemple, l'Indonésie possède des sites de l'UNESCO, des géoparcs, Labuan Bajo, Blitung, et d'autres qui permettent à l'Indonésie d'attirer de nombreux touristes. Haji Abdul Manaf a déclaré « Beaucoup. Comme les sites de l'UNESCO, vous avez de nombreux sites de l'UNESCO. Vous avez Borobudur, vous avez le géoparc. Il y a en effet de nombreux endroits là-bas. Il y a en effet une opportunité pour l'Indonésie d'attirer les touristes en raison de l'immensité de ce pays. Vous pouvez même aller à Labuan Bajo, Blitung. Il y a de nombreux endroits intéressants à visiter. C'est une méthode. Quel type de promotion souhaitez-vous faire? Je pense donc que l'Indonésie n'a aucun problème à attirer les touristes. Haji Abdul Manaf a ensuite expliquer que les Brunéens préfèrent visiter Jakarta et Bandung pour le tourisme sportif ou golf et le shopping dans le domaine de la mode, des textiles, du batik et de la cuisine. Pendant ce temps, les touristes indonésiens qui visitent Brunei s'adonnent principalement à des activités de tourisme religieux et de tourisme éducatif. Selon Haji Abdul Manaf, pour faciliter la visite des touristes en Indonésie et au Brunei, il y aura dans un avenir proche des vols de Balikpapan à Brunei et vice-versa. La vice-présidente de la commission 7 de la Chambre des représentants indonésiennes, DPR-RI, Husnunia, soutient les mesures fermes prises par le gouvernement pour interdire à la célèbre société technologique Apple de vendre des produits en Indonésie si la société des États-Unis ne montre pas un engagement à investir en Indonésie. Husnunia a souligné dans un communiqué officiel de Jakarta mardi 14 janvier que la présence d'Apple peut contribuer à l'économie nationale en produisant des composants de base et essentiels en Indonésie afin qu'elle puisse encourager la croissance économique. Créer des emplois et renforcer la position de l'Indonésie en tant qu'un des acteurs importants dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, si Apple n'a pas investi dans la production des composants essentiels en Indonésie, Husnunia a appelé à ce que les téléphones des séries iPhone 17, iPhone 18 et iPhone 19 ou iPhone 20 ne soient toujours pas vendus en Indonésie. Husnunia a ajouté que cette étape est importante pour garantir la justice économique et montrer que l'Indonésie dispose d'une forte position de négociation dans les relations commerciales internationales. Cette mesure ferme du gouvernement devrait servir de catalyseur sur inciter d'autres entreprises mondiales à investir davantage en Indonésie tout en augmentant la compétitivité de la main-d'œuvre et de l'Indonésie locale. Auparavant, le gouvernement indonésien avait encouragé Apple à utiliser le premier plan d'investissement ou la construction d'installations plein production d'usines. Le ministère de la Protection des travailleurs migrants indonésiens, KP2MI, supervise le retour de 179 travailleurs migrants indonésiens non procéduraux, PMI, qui ont été expulsés d'Arabie Saoudite dans leurs foyers respectifs, afin de leur assurer une protection complète. Le ministre du P2MI, Abdelkadir Karding, lors de la prise en charge des travailleurs migrants indonésiens à l'aéroport Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, mardi 14 janvier, a conseillé aux personnes souhaitant travailler à l'étranger de suivre les procédures établies par le gouvernement complète du gouvernement, à partir des processus de départ jusqu'à la fin du travail. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, assure qu'il est prêt à encourager une productivité accrue dans le secteur de la pêche dans la province de Sumatra du Sud et Sumatra, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a déclaré que de la réunion de coordination du secteur alimentaire à Palembang, dans le sud de Sumatra, que l'augmentation de la productivité de l'aquaculture était l'un de ses objectifs dans le développement du secteur maritime et de la pêche jusqu'en 2029. Dans un communiqué mardi 14 janvier, le ministre Trenggono a expliqué que son parti résout actuellement divers problèmes de culture qui préoccupent la communauté, notamment dans le sud de Sumatra. Selon Trenggono, les pêcheries du sud de Sumatra ont un grand potentiel, comme en témoigne la production aquacole assez élevée en 2023. Le ministre Trenggono espère qu'avec le développement de l'aquaculture, le sud de Sumatra, qui est l'une des zones de production alimentaire, soutiendra la réalisation de l'objectif d'autosuffisance alimentaire en 2023-2027. L'Indonésie prend davantage au sérieux la lutte contre le changement climatique en lançant un système d'échange des droits d'émission de carbone. Le ministre de l'Environnement et de l'Agence de contrôle de l'environnement, Hanif Faisal Nourofik, a expliqué que le commerce du carbone ne vise pas seulement à réduire l'impact du changement climatique, mais œuvre également de nouvelles opportunités économiques pour l'Indonésie. Dans une déclaration reçue à Jakarta mardi 14 janvier, il a déclaré que son parti a invité les acteurs du monde des affaires et la communauté à participer à la réduction des émissions tout en utilisant le potentiel économique du carbone existant. Par le biais du règlement présidentiel numéro 90 de 2021, le gouvernement a établi un mécanisme d'échange de carbone dans le cadre de la valeur économique du carbone, qui est géré par le Système national d'enregistrement du contrôle des changements climatiques, SRNPPI. Le commerce international du carbone devrait débuter le 20 janvier 2025. L'Indonésie compte 4 projets majeurs qui ont été enregistrés, notamment des projets de production de gaz naturel et d'hydroélectricité détenus par PLN Indonesia Power SA et Nusantara Power SA. Ces projets entraîneront des réductions d'émissions qui pourront être négociées sur le marché international du carbone. La station de radiodiffusion étrangère LPP RRI Voice of Indonesia a été sélectionnée comme partenaire du programme de stage pour étudiants étrangers organisé par le consortium australien pour les études sur l'Indonésie dans le pays, ACISIS. Voice of Indonesia est l'une des 5 institutions gouvernementales partenaires de l'ACISIS cette année. Le coordinateur du programme ACISIS, Helmi Watamuri, a expliqué à Voice of Indonesia qu'en plus de Voice of Indonesia, les participants au stage étaient répartis entre Bogor et Yogyakarta. Helmi Watimuri a dit
Kali ini kita punya 108 mahasiswa dari sekitar.
Cette fois-ci, nous avons 108 étudiants de 14 universités australiennes différentes. Ensuite, le nombre a effectivement légèrement diminué, passant de 113 à 108 actuellement. Ensuite, pour les lieux de stage, nous en avons également ouvert en dehors de Jakarta, il y a donc Bogor et Yogyakarta. Si nous parlons du thème général, il s'agit en fait toujours du même, la connexion interpersonnelle Australie-Indonésie, mais cette fois-ci, comme les participants sont davantage des étudiants en droit, le secteur juridique est peut-être le plus, mais en avant comme grand thème. Helmi Otimuri a ajouté, en plus de s'appuyer sur le programme de financement du New Colombo Plan, les étudiants stagiaires de cette année ont reçu un financement de la Fondation AIRSI Nouvelle-Zélande. L'ambassade de Finlande en Indonésie et Business Finlande ont visité la capitale d'État Nusantara IKN, mardi 14 janvier 2025. Cette visite a été effectuée afin de voir des exemples de technologies de poteaux intelligents et d'autres technologies intelligentes, technologies urbaines dans l'archipel, par le biais de la déclaration citée sur oikn.go.id, mercredi 14 janvier, lors de cette visite, l'ambassade de Finlande, dirigée par l'ambassadeur de Finlande en Indonésie au Timor-Oriental et à l'ASEAN, PKKI-Lahti, ainsi qu'en l'équipe de Business Finland, a eu l'occasion de voir la construction de ses propres yeux. L'ambassadeur de Finlande en Indonésie au Timor-Oriental et dans l'ASEAN, Pekka Kaihilahti, a expliqué que le but principal de cette visite est que nous souhaitons coopérer avec l'autorité d'IKN pour développer les villes intelligentes et nous avons la meilleure expertise, expérience et application en termes de villes intelligentes et nous voulons partager tout cela avec l'Indonésie. Il a également exprimé son espoir que la relation de la collaboration entre l'Indonésie et la Finlande puisse devenir plus forte. Bonjour, Jeter, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui avec Maudry et je vais vous présenter Journée nationale des villages. Ce jour aujourd'hui est le premier jour de commémoration de la Journée nationale des villages car l'année dernière, seulement le gouvernement tunisien par décret présidentiel a désigné le 14 janvier comme Journée du village. Le décret comprend un certain nombre d'objectifs pour l'instauration de la journée du village. Parmi eux figurent la reconnaissance et l'appréciation du rôle important des villages dans le développement national. En outre, il s'agit également d'accroître l'attention et l'engagement du gouvernement, de la société et de diverses autres parties prenantes dans le soutien au développement durable des villages. Java occidentale est devenue le centre de la commémoration de la Journée nationale du village qui s'est déroulée dans les régions de Souban et de Sumedang. Cette année, la commémoration de la Journée du village porte le slogan « Construire des villages, construire l'Indonésie ». Le slogan est conforme à la sixième mission d'Astachita du gouvernement du président Prabowo Subianto, à savoir construire à partir du village et d'en bas pour l'égalité économique et l'éradication de la pauvreté. Astachita elle-même regroupe les 8 missions du gouvernement Prabowo-Gibran qui contiennent le renforcement de l'idéologie de la démocratie, le développement de l'Indonésie tout entière doit commencer par le village, car ceci contribue à 74% à la réalisation des objectifs de développement durable ODD nationaux. D'un point de vue territorial, 91% des zones gouvernementales sont des villages. Du point de vue de la population, 188 millions de villages constituent 43% de la population indonésienne. Construire à partir du village implique de nombreux aspects, notamment les ressources humaines, la santé, le potentiel économique et l'environnement. Si tous les aspects peuvent être renforcés et développés simultanément, alors les efforts de développement déployés à partir du village auront un impact sur le développement national. Selon le gouverneur par intérim de Java occidental, Bey Mahmoudin, la province choisie comme hôte ne compte pas aucun village sous-développé ou très sous-développé. Plus de 5000 villages existants ont un statut indépendant ou sont classés comme villages avancés. Et seulement 508 villages ont un statut en développement. Entre-temps, selon les dernières données de l'Agence centrale des statistiques en 2024, l'Indonésie compte un total de 84 266 zones administratives au niveau des villages. Parmi ces villages, il y en a qui sont encore sous-développés et très sous-développés. Heureusement, les chiffres sont en baisse de quelques dizaines de milliers à aujourd'hui seulement quelques milliers de villages. Cela signifie cependant que le gouvernement a encore du travail à faire pour éradiquer les villages sous-développés et très sous-développés. Bien entendu, le gouvernement ne peut pas agir seul pour y parvenir. Cela nécessite le soutien de toutes les parties et même de la communauté entière. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 15 janvier 1962. Yosudarso est décédé. Le commandeur Yosafat Sudarso, également connu sous le nom de Yosudarso, est décédé à bord du KRI Macan Tutul lors de la bataille de la mer d'Arafura. La bataille de la mer d'Arafura est une bataille qui a eu lieu dans la mer d'Arafura au Molouk le 15 janvier 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Cet incident s'est produit lorsque deux destroyers, les avions Neptune et Ferrari appartenant aux Pays-Bas, ont attaqué les navires indonésiens Macan Tutul, KRI Macan Kumbang et KRI Harimau qui étaient en patrouille. Le nom Yosudarso est immortalisé comme le nom du navire de guerre indonésien, à savoir KRI Yosudarso, le nom du Nuhu et le nom du Nil, tandis que le 15 janvier est commémoré comme la journée du Dharma Samudra. Passons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 janvier 1974, l'incident de Malari à Jakarta. L'incident de Malari était une manifestation étudiante qui a conduit à des émeutes majeures le 15 janvier 1974. Cet événement a commencé avec l'arrivée prévue du premier ministre japonais Tanaka Kakue en Indonésie et aussi avec le chaos autour des investissements étrangers à cette époque. Les étudiants ont accueilli l'arrivée de Kakue le 14 janvier 1974 en organisant une manifestation à l'aéroport Halim Perdana Kusuma. Cependant, les manifestants n'ont pas pu entrer car ils étaient fortement gardés par les forces de sécurité.
lendemain, 15 janvier 1974, les étudiants descendent à nouveau dans la rue pour réclamer l'inégalité dans les investissements étrangers qui profitent à certains groupes, l'éradication de la corruption et les prix élevés des produits de première nécessité. Outre ces trois revendications, les étudiants exigent également la dissolution de le conseiller personne adjoint du président Suharto. Vers l'après-midi, la manifestation a commencé à s'échauffer et s'est terminée dans le chaos. Après le meute, le président Suharto a pris des mesures pour destituer le commandant du commandement des opérations pour le rétablissement de la sécurité et de l'ordre. Le général Soumitro, parce qu'il était jugé responsable des émeutes et des morts, le nombre enregistré de victimes de l'incident de Malaré était de 11 personnes tuées, 137 personnes blessées et 750 personnes arrêtées. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 janvier 2004. Transjakarta a officiellement fonctionné pour la première fois. Transjakarta est un système de transport moderne sur la forme de bus rapide ou BRT. On l'appelle ainsi que les bus ont leur propre voie sur l'autoroute qui sont séparés par des séparateurs en un certain nombre de points. Ceci, le système de transport public est la réponse à l'anxiété des citoyens de Jakarta qui aspiraient au transport public plus approprié. Le gouverneur du DKI Jakarta de l'époque, Sutiyoso, a ensuite adopté ce système de transport public depuis la capitale colombienne, Bogota. Transjakarta était le premier système de transport par bus rapide, BRT, en Asie du Sud-Est et du Sud. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Voice of Indonesia. We'll be right back.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie, dont le titre est « L'accélération de l'intégration des données uniques. L'Indonésie renforce la gouvernance de l'intégration des données numériques ». Le gouvernement indonésien accélère les politiques liées à la réglementation unique des données dans les domaines social et économique. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur pour l'autonomisation des communautés, Muhammad Iskandar, lors d'une réunion de coordination au niveau ministériel pour discuter du projet d'instruction présidentielle sur les données sociales et économiques nationales uniques, DTSEN, à Jakarta, lundi 13 janvier. Le ministre coordinateur Muhaimin a également expliqué que ce programme est conforme à la directive du président Prabowo Subianto visant à combiner les données nationales. Parallèlement, une forme de soutien sera apportée sous la forme d'une instruction présidentielle servant de cadre juridique. Cela facilitera la mise en œuvre des programmes nationaux de développement et encouragera la synergie des données entre les agences gouvernementales. Les données sociales et économiques uniques nationales, DTSEN, serviront également de base pour cibler tous les programmes sociaux au niveau central et régional. Le ministre coordinateur Muhaimin a en outre déclaré que le DTSEN combine trois types de données socio-économiques existantes, à savoir les données intégrées sur la protection sociale, DTKS, la ciblage pour l'accélération de l'éradication de l'extrême pauvreté, P3KE, et l'enregistrement socio-économique. Ces données sont également complétées par des données administratives et validées par des données de population. Pendant ce temps, à la même occasion, la ministre de l'autonomisation de l'appareil d'État et de la réforme bureaucratique de la République d'Indonésie, Rini Widiantini, a exprimé son soutien au DTSEN car il s'inscrit dans la transformation numérique du gouvernement. Selon Rini, la mise en œuvre du DTSEN est l'une des manifestations de l'échange de données en tant qu'autoroute de l'information qui relie diverses applications dans l'infrastructure publique numérique. La ministre Rini a également expliqué qu'il est nécessaire de mettre en place une orchestration entre agences pour soutenir l'échange de données dans la mise en œuvre du DTSEN, avant qu'un accord commun soit trouvé pour créer un processus d'affaires intégré qui soit également inclus dans la gouvernance de la transformation numérique. Dans sa présentation, la ministre Rini a également soumis sa proposition visant à renforcer le projet d'instruction présidentielle sur les données sociales et économiques nationales uniques, DTSEN, en recommandant la collecte, le rapprochement et la gestion des données. La ministre Rini a également proposé que le projet d'instruction présidentielle sur le DTSEN soit renforcé. L'une des recommandations soumises concerne la collecte, le rapprochement et la gestion des données. La ministre Rini a ajouté que les données ont été fondamentalement et structurellement transformées dans les agences gouvernementales et pour réutiliser l'autonomisation et les normes avec la gouvernance de la mise en œuvre du DTSEN pour devenir une transformation durable. La ministre Rini a également souligné que le ministère de l'autonomisation de l'appareil d'État et de la réforme bureaucratique de la République d'Indonésie est prêt à collaborer au renforcement de la gouvernance du système national unique de données sociales et économiques. Entre autres, faciliter la coordination et la synchronisation liées à la transformation numérique du gouvernement et la formation de cartes de processus opérationnels intergouvernementales liées aux données sociales et économiques uniques nationales, DTSEN. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Thank you. suatu suasana terasanya tenang dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, Bawen est une île située dans la mer de Java, à environ 135 km au nord de la ville de Gresik. Administrativement, cette île fait partie de la région de Gresik à Java oriental. Bawen est surnommée la perle cachée dans la mer de Java. En fait, certains l'appellent même un morceau de nirvana dans la mer de Java. Si vous y allez, vous trouverez des plages de sable blanc naturel, des parcs marquants bien entretenus et des gens sympathiques. Outre le suivi, la navigation à bord d'un bateau de location vers les îles autour de Bawean peut également être une série d'événements amusants. Le nombre de la population est d'environ 107 000 personnes, la majorité étant des Bawéanais et un mélange d'autres groupes ethniques de Java, Madura, Kalimantan et Sumatra. Les principaux moyens de subsistance de la population de cette île sont l'agriculture et la pêche. L'île de Bawean est une très belle île au milieu de la mer de Java. Bien que sa superficie soit seulement de 196,97 km², cette île possède une longue histoire et un charme intéressant. Le nom Bawean lui-même vient du sanskrit qui signifie l'existence de la lumière du soleil. Si vous visitez Bawean, n'oubliez pas de voir les mammifères uniques de Bawean. Parce que ce mammifère de type surf ne se trouve que sur l'île de Bawean. En dehors de cela, cette île est également surnommée l'île de la princesse. Dans la légende de l'île de Putri, l'île de Bawean était le lieu où la famille du royaume de Champa a débarqué en route vers l'île de Java. Ils ont ancré parce que la fille du roi était malade. Et dit-on, la fille du roi mourut à Bawean. En l'honneur de la princesse, l'île a été nommée l'île de princesse. Jusqu'à présent, sa tombe existe toujours précisément dans le village de Kumualasa, connu sous le nom de tombe de Juju Champa. Sejurita, pour vous rendre sur cette île, vous pouvez essayer la route maritime via le port de Gresik et le port de Paciran, Lamongan. Le voyage en mer Gresik-Bawean peut être effectué avec un temps de trajet estimé à 3 heures. L'express Bari dessert les traversées tous les jours, sauf le vendredi. Selon le site officiel de l'express Bari, le prix des billets VIP commence à partir de 250 000 rupiah. Pendant ce temps, le budget exécutif commence à partir de 100 000 rupiah. C'est Jurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec les requins. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. En français, jamais nager avec les requins. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, une amie de la communauté de vlog de Chris, sur l'île de Karimunjawa. Chris a dit à Ayu qu'il n'avait jamais nagé avec les requins. Bonne écoute.
Besok kita akan ke pulau Menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous donner et introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé « Belum pernah berenang dengan hiu ».« Belum pernah berenang dengan hiu ». »« Jamais nager avec les requins ». Je vous prononce doucement et lentement chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. « Belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec les requins. Belum pernah. Belum pernah. Jamais. Berenang. Berenang. Nager. Dengan. Dengan. Avec. Hiu. Hiu. Requin. Aman. Aman. Sûr. Besok. Besok. Demain. Pulau Menjangan kecil. Pulau Menjangan kecil. Petite île de Menjangan. Tenang saja. Tenang saja. Reste calme. Kecil-kecil. Kecil-kecil, petit. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya belum pernah berenang dengan hiu ». Saya belum pernah berenang dengan hiu. Je n'ai jamais nagé avec les requins. Dans cette déclaration, il y a l'expression « belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nagé avec des requins. L'expression belum pernah. Belum pernah. Jamais auparavant. Dans cet énoncé, la fonction est d'expliquer l'activité de nager avec les requins. Dans le contexte de cette conversation, Chris a déclaré qu'il n'avait jamais fait l'expérience de nager avec des requins. Chers amis, écoutons un autre exemple d'utilisation de l'expression belum pernah. Belum pernah, jamais auparavant, pour exprimer une expérience. Dia belum pernah bermain golf. Dia belum pernah bermain golf. Il n'a jamais joué au golf. Saya belum pernah berkunjung ke pulau Menjangan kecil. Saya belum pernah berkunjung ke pulau Menjangan kecil. En français, je n'ai jamais visité l'île de Menjangan kecil. Ce jour, dans les îles Karimunjawa, au centre de Java, il y a 27 îles. Deux des îles utilisent le nom de Menjangan, à savoir l'île Menjangan besar et l'île Menjangan kecil. Le nom Menjangan signifie roussa, ou Sarfa. L'animal que l'on trouve sur les deux îles. La particularité des deux îles est qu'elles abritent une nourserie de requins. Les visiteurs peuvent nager avec les requins. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de la province de Sumatra occidentale intitulée Mudiak Arau. Ce jour, la chanson Mudiak Arau a été composée par Ajis Sutansati. La chanson Mudiak Arau a raconté l'histoire d'une femme qui aime beaucoup un homme. Son amour est si profond qu'elle est prête à accepter l'homme dans l'importante quelle condition. Mon cher Jouitard, voici la chanson intitulée Mudiak Arau, chantée par Nurul Fadila Hamid. Bonne écoute!
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.